Bonjour à tous et bienvenue encore. Donc on va commencer cette deuxième journée portant sur commerce et croyances dans l'océan Indien avec la communication donc de notre collègue de Langso, de l'UNARCO, Paul Wemser. J'avais eu le plaisir d'ailleurs de siéger dans son jury de thèse il y a quelques années maintenant et il a entre-temps publié cette thèse sous forme d'un livre qui a pour titre « Le Bustan Salatin » de Nuruddin Ranhiri, qui était le texte sur lequel il avait fait ses études à l'époque. Il continue à travailler sur le monde malais, entre autres sur le roman d'Alexandre, je crois. Ouais. Et aujourd'hui, donc, il a changé légèrement son titre par rapport à ce que vous trouvez sur l'affiche, mais néanmoins, c'est dans les mêmes zones. C'est donc « Le commerce est-il à l'origine de l'islam malais ?» Donc, vous avez le propos pour 40 minutes à peu près.
Voilà, donc effectivement, j'ai légèrement modifié mon titre, puisque vous avez peut-être vu que mon titre parlait des rois, et j'avais pas forcément envie de parler uniquement des rois, donc je me suis permis d'élargir un petit peu le sujet. Alors en fait, le problème que je voudrais aborder aujourd'hui, donc dans cette conférence « Commerce et croyances dans l'océan Indien », c'est de savoir exactement quelle a été la part donc des influences commerciales, des influences qui sont arrivées par le commerce sur le développement de l'islam malais. Donc je vais procéder en deux temps. En fait, dans un premier temps, je vais présenter un petit peu les réseaux de commerce qui ont pu participer à la diffusion de l'islam jusqu'au monde malais. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais aborder ce que j'ai appelé la malaïsation de l'islam. Et là, on va surtout parler de la diffusion de l'islam à l'intérieur du monde malais et des formes assez particulières qu'il a pu prendre. Et on va se demander justement si ces formes particulières de l'islam malais ont ou non un rapport avec ces influences commerciales. Alors, pour commencer, donc on va regarder cette carte des routes de commerce dans l'océan Indien. Alors là, vous voyez que les dates qui sont indiquées en dessous parlent donc de la fin du premier millénaire, mais les routes sont restées assez stables par la suite. Donc il ne faut pas faire très attention à ces dates. En fait, qu'est-ce qui est important pour nous donc pour comprendre cette diffusion de l'islam jusqu'au monde malais? C'est que donc, l'islam a commencé à devenir une religion d'État dans un nombre croissant d'États de la région à partir de la fin du XIIIe siècle. C'est un mouvement donc, qui a commencé ici par la pointe nord de Sumatra et qui a ensuite, à l'intérieur de la zone, donc, suivi les principales routes du commerce, en particulier donc, une route qui part de Sumatra pour aller ici jusqu'à l'est de l'archipel, jusqu'aux îles Moluques. Ce sont donc les îles aux épices, ces îles d'où viennent le clou de girofle et la noix de muscade, donc des marchandises qui valaient extrêmement cher et qui étaient un des moteurs principaux du commerce dans la région. Alors, justement, qui venait chercher ces épices? Alors, il y avait donc le clou de girofle, la noix de muscade, mais aussi le poivre, dont on a un petit peu parlé hier. Sachant que le poivre est plutôt un produit qui poussait ici dans l'ouest de l'archipel. Donc, qui venait chercher ces produits? Donc, en fait, c'est des gens qu'on retrouve sur tous les bords de l'océan Indien. Alors, un marché important, c'était le marché de la mer Rouge. En fait, ces épices donc, arrivaient au Yémen, puis ensuite en Égypte, et une partie de ces épices ensuite continuait le trajet depuis l'Égypte vers la Méditerranée et l'Europe. Il y avait également donc, un débouché ici dans le golfe Persique. Donc évidemment, c'est beaucoup moins loin, un commerce très important avec l'Inde, qui était surtout un commerce donc, d'échange d'épices contre des textiles indiens. Donc j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais donc il y a trois régions principales qui ont été en contact commercial très important avec le monde malais. Il y a le Gujarat, ici, donc au nord-ouest de l'Inde, donc très importante région de production de coton et de textiles en coton. Ici, donc, le pays tamoul, donc au sud de l'Inde, et troisième région de production textile très importante, d'exportation textile, c'est la région du Bengale, donc qui correspond aujourd'hui au Bengale occidental en Inde et au Bangladesh indépendant. Donc voilà pour ces régions, on va dire, qui sont situées à l'ouest du monde malais. Alors à l'est, on a aussi bizarre que ça puisse paraître, quelques traces donc d'influence islamique venue de Chine, en particulier du port que vous voyez ici, donc qui s'appelle Quanzhou, qui était un port très important. La période qui correspond au Moyen-Âge européen, c'est-à-dire à la dynastie Song, puis pendant la période mongole, et donc il y a eu des fortunes diverses par la suite, mais donc on reviendra un petit peu plus sur cette question donc des musulmans chinois dans l'archipel. En tout cas, pour résumer un peu ce tableau rapide, il faut savoir que on a effectivement eu des marchands musulmans qui sont venus de chacune des régions que je vous ai présentées. Et donc, on a divers courants d'influence islamique qui viennent en fait de tous les bords de l'océan Indien et de la mer de Chine. Et donc, je vais les examiner un par un maintenant. Oui, peut-être une dernière chose avant de passer à ces influences. Je dirais que comme on est dans un archipel, il faut aussi se souvenir que donc les influences culturelles de l'étranger ne pouvaient arriver que par bateau. Et en fait, les seuls bateaux qui circulaient, c'était des bateaux de commerce. Donc, que ce soit des religieux, que ce soit des artisans ou des hommes de lettres, tous ceux qui ont pu amener des influences islamiques n'ont pu monter que sur des bateaux de marchands. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc si je reviens un peu à ce qui a été dit hier, Niall Green nous avait parlé donc, de la diffusion de ces influences d'Asie centrale vers l'Inde en particulier, de manière terrestre. Eric Vallée nous avait parlé plutôt de réseaux maritimes. Et c'est vrai que là, on est plutôt dans un cas qui ressemble au cas du Yémen, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas du tout de traces, par exemple, de mouvement de l'islam par la conquête, comme on a pu avoir donc en Inde du Nord. Les routes qui sont suivies par l'islam, ce sont forcément des routes de commerce, puisque de toute façon, il n'y aurait pas de bateau pour amener ces gens. Alors, je vais aborder rapidement donc la question de la langue, parce que ce qui est assez intéressant dans le monde malais, c'est qu'on a la combinaison aux mêmes endroits, dans les mêmes ports, à la même période, de textes musulmans qui sont à la fois rédigés en arabe et rédigés en persan. Donc là, je vous montre rapidement juste deux cartes. Une carte du monde arabophone, donc ici en vert, et ici en bleu le monde persanophone. Vous voyez que ça se recoupe un petit peu donc dans les régions autour de la frontière Iran-Irak. Ces deux cartes montrent les régions où on trouve des populations importantes arabophones ou persanophones. Évidemment, parfois il y a les deux. Ce qui est important pour notre période, pour comprendre pourquoi on a justement un mélange entre ces influences de textes arabes et de textes persans, c'est que les frontières sont un peu plus floues que ce que je vous avais montré sur ces cartes, disons, ces cartes qui montrent les langues maternelles, puisque la culture persane a débordé très très largement donc au-delà de ces frontières à cette époque. Donc c'est juste un petit rappel. Alors là, sur cette carte, on voit donc les grands empires islamiques de l'époque, surtout entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors là, ce qui est important, c'est que donc on a l'empire safavide en Iran, ici en violet, mais du point de vue du monde malais, on a relativement peu de traces de contact direct avec l'empire safavide. Quand on a des influences persanes, elles vont plutôt venir d'émigrés iranophones qui viennent des autres empires de culture persane voisins. Donc, qui sont tous des empires avec des souverains d'origine turque, mais le persan comme langue de culture. Donc, on a un petit peu ici des gens d'Asie centrale, donc qui viennent du domaine des Chaïbanides, ici en jaune. Mais on a aussi beaucoup plus donc d'influences qui nous viennent ici de l'Empire ottoman. Alors il est en plusieurs couleurs pour montrer son extension. Enfin, vous voyez là, il est en rose et saumon. Et de l'autre côté, donc on a évidemment des influences qui viennent également de l'Empire moghol en vert. Donc ce qui est important, c'est que on peut avoir justement des influences arabes et persanes qui viennent des mêmes endroits, puisque comme vous voyez, donc il y a des zones ici à la frontière Iran-Irak où tout ça se recoupe allègrement. Et ce qui est important aussi, c'est que ces régions des bords de la mer Rouge, surtout donc la région donc du Hijaz, ici la région de la Mecque ou l'Égypte, étaient pour la fin de la période dont je vais parler intégrée à l'Empire ottoman. Donc on peut aussi avoir des influences des textes en langue persane qui arrivent de l'Empire ottoman par cette voie. Donc, pour faire un peu la distinction entre ces deux types d'influences, je vais vous dire en gros qu'est-ce que les textes arabes nous apportent. Alors, de manière générale, la plupart des textes en arabe qu'on retrouve dans le monde malais, donc entre le XIVe et le XVIIe siècle, ça va plutôt être des textes qui vont être liés au droit musulman. Donc en particulier le droit chafiite, puisque là vous avez sur cette carte les quatre grandes écoles de droit de l'islam sunnite. Et donc l'école qu'on trouve en Indonésie, cette école chafiite ici en bleu clair, qui est en fait donc une école qui est importante sur les bords de la mer Rouge, en Égypte et au Yémen. Mais justement les réseaux marchands qui ont quitté le Yémen et la mer Rouge pour l'océan Indien, ont fait de l'école chafiite l'école de droit des musulmans de l'océan Indien. Donc là, ce qu'on voit, ce qu'on devine sur cette carte, c'est qu'alors qu'en Inde, on a plutôt des musulmans qui suivent l'école de droit hanafite, ici en violet, sur les côtes, c'est là qu'on va trouver une majorité donc, de gens qui suivent l'école chafiite. Et donc c'est le cas jusqu'à aujourd'hui en Indonésie. On a, en fait, avec cette école de droit, on a une trace très très claire, disons, de la diffusion d'une partie de ces influences islamiques directement depuis le Yémen et la mer Rouge, et apparemment donc depuis une période assez ancienne. Alors, on a évidemment d'autres textes, mais on a surtout donc des textes qui vont être des textes de droit. Alors inversement, en persan, on va avoir plutôt des influences islamiques qui vont être des influences que j'appellerais littéraires et artistiques. Donc que je vous ai illustré ici par un manuscrit enluminé. Alors, pour ceux qui lisent le persan ou l'arabe, ici, vous aurez reconnu donc, le nom du roi Anushirvan, donc un roi persan de l'époque, un roi persan de l'époque pré-islamique, qui est très très présent donc, dans la tradition des miroirs des princes, donc un genre en persan qui est destiné donc, à l'éducation des princes pour leur apprendre à être plus tard de bons rois. Donc un genre qui était extrêmement populaire à l'époque, à la fois dans l'Empire ottoman et dans l'Empire moghol. Et donc on retrouve toute une série de miroirs des princes d'inspiration persane dans le monde malais. Donc de ce point de vue-là, le persan va être plutôt lié à ces influences littéraires et artistiques. Alors quelques autres petits exemples des arts qui peuvent être concernés. Alors, à gauche, vous avez le sceau des sultans d'Aceh. Alors, Aceh, c'est le sultanat qui se trouve à l'extrême nord-ouest de Sumatra. Donc, c'est la région où l'islam est arrivé en premier à la fin du XIIIe siècle. Et donc, ce sceau, en 9 parties, est directement inspiré des sceaux des empereurs moghols. Sauf que dans l'Empire moghol, on a rajouté progressivement. Au départ, on avait donc une partie centrale pour le roi actuel, et au départ il n'y avait que quatre bulles sur les côtés donc pour désigner les grands ancêtres, et au fur et à mesure qu'on rajoutait un souverain, on rajoutait un sceau. Alors à Hatier, on en a toujours gardé neuf, et donc on change les noms des souverains en fonction donc de ceux dont on a envie de se souvenir. Et donc c'est un autre exemple, disons, de ces influences persanes qui vont être surtout donc dans des domaines donc littéraires ou artistiques. Alors là, on a un autre exemple intéressant, c'est une lettre donc qui a été envoyée par le sultan d'Aceh au roi d'Angleterre au début du XVIIe siècle. Et donc dans cette lettre, on voit à la fois donc le reflet donc de tradition, de décoration du papier qui pourrait en fait être aussi bien ottoman que moghol, c'est un peu difficile à déterminer. Et à l'intérieur, là vous ne voyez pas bien, mais la formulation qui est employée en malais pour s'adresser au roi d'Angleterre, c'est directement tiré de la tradition d'Insha, donc de la langue persane, c'est-à-dire la tradition de ces manuels qui expliquent comment on écrit des lettres, comment un souverain doit s'adresser à un autre souverain. Donc, on a un domaine d'influence un peu différent. Alors, il y a un domaine dans lequel on trouve des influences des deux côtés, qui sont légèrement différentes, c'est le domaine de la mystique, qui était en fait un des aspects de l'islam qui a été vraiment les plus populaires dans le monde malais. C'était pratiquement donc le seul domaine dans lequel les malais voulaient se former, c'était donc la mystique musulmane. Et on trouve à la fois des traces de transmission de textes mystiques en langue arabe et de textes mystiques en langue persane, et donc des traditions qui peuvent être assez différentes, mais qu'on retrouve aux mêmes endroits, aux mêmes périodes. Alors, la tension qu'on peut éventuellement trouver entre les deux à certaines périodes, c'est que dans ces influences de la mystique persane, c'est quelque chose qui va plutôt s'exprimer par la poésie et où justement on ne va pas avoir tellement d'insistance, disons, sur les dangers de la mystique. On va plutôt exprimer joliment par la poésie l'extase de l'union mystique, mais sans préciser très très clairement que cette union ne peut pas être complète puisque dans l'islam Dieu est parfaitement transcendant, alors qu'au contraire en arabe en général on va avoir des traités de mystique qui sont des traités en prose, des traités techniques, et qui vont insister beaucoup plus à la fois sur les techniques donc pour arriver à l'union mystique, et qui vont mettre des mises en garde très très nettes sur les dangers que représente la mystique, puisque si on ne comprend pas bien, par exemple, les principes de la loi islamique, les principes de base de l'islam, on risque de tout oublier par la pratique du soufisme. Et donc, on a en gros cette opposition. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des traces d'hybridation dans les deux sens. Entre cette tradition que j'appelle arabe, cette tradition que j'appelle persane, c'est uniquement pour désigner la langue dans laquelle les textes sont écrits, puisque vous avez vu que ces textes persans peuvent venir de régions assez variées. Alors, un exemple intéressant, c'est qu'on a retrouvé, par exemple, à Aceh au XVIe siècle, une grammaire de la langue arabe qui était rédigée en langue persane. Donc c'est pour un texte qui au départ est destiné à enseigner l'arabe à des persanophones, et ce texte est annoté en malais de façon interlinéaire, c'est-à-dire qu'à chaque ligne donc du texte persan, on va avoir en dessous une ligne en malais qui explique le sens du texte. Donc ça vous montre que il y avait des gens qui apprenaient d'abord la langue persane pour accéder à la langue arabe. Et on a aussi des exemples dans l'autre sens qui sont assez intéressants. En particulier le livre sur lequel j'ai fait ma thèse, qui s'appelle le Bustanus Salatin, le jardin des sultans. En fait, c'est un texte qui est rédigé en qui est rédigé en malais, mais qui est entièrement constitué de traductions de textes arabes, Parfois, justement, on va avoir d'abord le texte en arabe, ensuite la traduction en malais. Mais ce qui est particulier avec ce texte, c'est que c'est pour partie un miroir des princes, donc un texte qui est plutôt dans la tradition persane. Et en fait, ce qu'on voit dans ce texte, c'est donc un monsieur d'origine arabe qui était chargé de traduire un texte de la tradition persane parce que le roi voulait accéder à cette tradition persane, mais lui-même venait d'horizons différents. Et il montre dans son texte qu'il n'est pas forcément extrêmement favorable à la tradition persane, ça ne lui plaît pas beaucoup, mais c'est une commande, donc il s'exécute. Donc je vous montrais ces deux exemples simplement pour vous dire qu'on a en fait sur place à la fois des traces de gens qui apprennent le persan pour accéder à l'arabe et de gens qui passent par l'arabe pour accéder à la culture persane. En fait, dans la mesure où on est dans un carrefour commercial, on a des influences donc très très variées qui arrivent au même moment dans cette région. Et donc c'est extrêmement difficile de dire est-ce que ces influences arabes sont arrivées en premier ou ces influences persanes. L'impression qu'on a, c'est que c'est quelque chose de complètement simultané. Alors maintenant, je vais passer à une autre question. C'est une influence qui a duré un peu moins longtemps. C'est l'influence des musulmans chinois. Alors, je vais revenir rapidement sur cette question. En fait, donc pour comprendre la conversion d'une partie des marchands chinois du Sud à l'islam, il faut remonter à la période mongole, donc la période pendant laquelle les Mongols ont gouverné la Chine. En fait, pendant cette période, les Mongols ont mis en place dans leur empire une hiérarchie raciale avec quatre niveaux. Pour résumer, donc on avait les Mongols tout en haut. En dessous, on avait trois catégories qui donnaient droit donc à des, en particulier à des conditions de taxation différentes, des possibilités d'emploi différentes. Et donc la catégorie d'en dessous, c'était la catégorie des musulmans d'Asie centrale qui avaient été conquis en premier par les Mongols et qui étaient très très nombreux dans l'administration de l'Empire mongol qui sont devenus tellement importants que d'une certaine façon, quand l'Empire mongol a disparu, ben, les administrateurs d'Asie centrale sont restés. Donc c'était une catégorie relativement favorisée. Et en dessous, donc, on avait deux catégories. On avait les Chinois du Nord, qui avaient été conquis avant, et tout en bas, les Chinois du Sud, qui venaient d'être conquis donc, à la fin du XIIIe siècle et qui étaient très, très suspectés donc, de trahison ou de loyauté vacillante à l'égard des Mongols. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une partie des marchands chinois du Sud à cette époque? C'est que pour changer de catégorie, pour pouvoir passer dans la catégorie des musulmans, donc dans cette deuxième catégorie, eh bien, ils se sont convertis à l'islam. Donc pas tous, seulement une partie. Mais donc on a des exemples célèbres, par exemple, de ces marchands chinois qui ont pu, par exemple, administrer une partie de la fortune de la famille impériale mongole après leur conversion. Donc, ce qui est important, c'est que donc, cette région de Chine du Sud, c'est la région qui commerce le plus avec le monde malais. Et donc, il y a deux épisodes que je vais évoquer rapidement, donc de migration assez importante de ces Chinois musulmans vers l'Asie du Sud. Alors, il y a un premier épisode qui est à la toute fin du règne des Mongols en Chine, en fait, la fin officielle du règne des Mongols en Chine, c'est 1368. Vous voyez que donc dans la dizaine d'années avant, il y a eu une révolte en fait de la communauté musulmane de cette ville de Quanzhou ici dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc le port principal qui commerçait avec l'Asie du Sud-Est. Et donc comme le pouvoir mongol était en complète déliquescence, on a en fait un groupe de marchands musulmans dirigés par deux généraux persans, on a leur nom en dessous, vous avez Amiruddin et Saifuddin, pour ceux qui lisent le chinois. Ces deux généraux donc, ont mené une rébellion ratée contre les Mongols, et à la suite de l'écrasement de cette rébellion, on a un nombre assez important de musulmans chinois qui se sont dirigés vers l'Asie du Sud-Est. Alors quand je dis musulmans chinois, il faudrait préciser que C'était une communauté très très mélangée. En fait, on avait des gens d'origine persane et arabe, des gens d'origine chinoise, qui ont formé une nouvelle communauté sur la base de l'islam, mais finalement leur identité ethnique n'était pas forcément quelque chose de déterminant. Alors, deuxième épisode de migration assez importante vers le monde malais, vers l'Asie du Sud-Est, c'est en fait la période qui fait suite immédiatement au voyage de Zheng He, donc vous voyez le nom ici, qui était un amiral musulman qui a servi la dynastie des Ming, les Ming, donc la dynastie qui a renversé les Mongols. Et donc après ces expéditions, il y a eu donc sept expéditions au début du XVe siècle qui ont traversé tout l'océan Indien. Après ces expéditions, le commerce extérieur a été subitement interdit aux Chinois et les Ming ont voulu remettre en place le système, l'ancien système qui était le système du tribut qui existait avant les Mongols, qui est un système où seuls les étrangers ont le droit de commercer avec la Chine, à condition de venir faire des cadeaux à l'empereur, de reconnaître qu'il est donc le souverain universel. Et donc, une grande partie donc, de ces musulmans chinois qui n'étaient pas partis pendant la révolte d'Ispa dont j'ai parlé tout à l'heure, sont partis donc, au milieu du XVe siècle vers l'Asie du Sud-Est. Donc, quelles traces ils ont laissées ? Ils ont laissé surtout des traces en fait, dans l'est de l'archipel, c'est-à-dire on les trouve surtout dans les débuts de l'islam à Brunei, au sud des Philippines, et on les voit beaucoup aussi sur la côte nord de Java. Donc ils ont suivi en fait un itinéraire nord-sud, un itinéraire de commerce nord-sud directement depuis les côtes de Chine. Alors on en a des témoignages intéressants. C'est par exemple les premières pièces musulmanes de Brunei sont décorées avec un chameau qui est en fait le sceau que l'empereur de Chine donnait au royaume vassaux. Donc ceux qui étaient venus faire des cadeaux pour avoir le droit de faire du commerce avaient le droit de recevoir ce sceau en forme de chameau, et donc il est reproduit sur les pièces de Brunei. Alors je crois que je ne vous ai pas mis d'image, mais on voit aussi une trace de ces réseaux chinois dans les tombes, dans les pierres tombales, les premières pierres tombales musulmanes de Brunei. On voit assez clairement donc, des modèles qui viennent directement de la communauté musulmane de Quanzhou. Alors maintenant, oui, alors quelques mots sur ces personnages qui sont assez importants à Java, en particulier sur la côte nord. Alors ces personnages, ce sont neuf saints soufis, donc neuf saints mystiques qu'on appelle en javanais Wali Songo, bon, ça veut dire les neuf saints, c'est pas très original. Ce qui est particulier, c'est que dans les biographies semi-légendaires de ces personnages qui ont vraiment existé, il y a des Chinois musulmans absolument partout. Alors certains d'entre eux sont adoptés par des Chinois musulmans, ils ont affaire à des Chinois musulmans en permanence. Alors c'est quelque chose de plus controversé, mais certains disent que parmi ces neuf saints, il y en a également qui sont eux-mêmes des Chinois musulmans. En tout cas, ce qui est très particulier, c'est que donc c'est des personnages qui, pour l'essentiel, ont vécu au 15e, 16e siècle. Donc à cette période, on entend énormément parler de ces musulmans chinois et après, ils disparaissent. Et pourquoi ils disparaissent? Simplement parce qu'ils se fondent dans la population. En fait, l'islam devient un moyen participer à la culture locale. Et au bout de quelques générations, ces gens qui prennent des femmes locales, on oublie complètement qu'ils peuvent avoir donc, des origines chinoises. Alors, je voulais dire maintenant quelques mots de ces influences indiennes. Donc, je vous ai dit, il y a trois régions principales de commerce, surtout du commerce des textiles. Donc, il y a le Gujarat ici, le pays tamoul, donc le Tamil Nadu au sud. Et alors là, la carte est un peu bizarre, mais donc c'est l'ensemble du Bangladesh ici en bleu et du Bengale occidental. Donc, cette région du Bengale, qui est aussi donc, une région d'exportation textile importante. Là, on trouve un peu plus de tissu en soie, mais c'est donc aussi une région d'exportation textile importante. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, c'est-à-dire avant l'islamisation du monde malais, on avait déjà des traces assez importantes de présence de communautés marchandes donc d'origine indienne sur place. Il y a par exemple des inscriptions en tamoul qui datent du XIe siècle dans l'ouest de l'archipel. Par contre, on trouve relativement peu de points communs entre l'islam de ces communautés côtières de l'Inde et l'islam tel qu'il se développe dans le monde malais. Disons que globalement, ces gens sont présents. Il y a parfois une influence artistique. Alors, une influence artistique et une influence aussi dans l'artisanat. Alors, je vous ai parlé d'un certain nombre d'influences que j'ai appelées persanes, donc qui sont passées aussi par ces côtes de l'Inde, puisque elles peuvent venir de l'Empire moghol. Mais dans l'ensemble, à part le partage de cette école de droit chafiite, il y a finalement assez peu de points communs entre ces communautés côtières de l'Inde et le monde malais. Alors, une des influences, disons, les plus visibles, c'est l'importation donc de ces pierres tombales en marbre du Gujarat, donc qui sont en fait parmi les plus anciennes. Enfin, c'est les plus anciennes tombes royales musulmanes qu'on a trouvées dans le monde malais. Donc, c'était des pierres tombales qui étaient entièrement sculptées et presque entièrement gravées au Gujarat. Elles étaient importées avant la mort des souverains. On laissait juste une place vide pour pouvoir graver donc la date de décès du souverain, son nom posthume. Donc ça fait partie de ces influences qui sont finalement plutôt des influences, je dirais, artistiques et artisanales. Et donc, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes travaux sur ces textes musulmans, c'est qu'il y avait beaucoup d'exemples de textes ou de personnages voyait comme des porteurs de la tradition indo-persane dans le monde malais, qui sont en fait des étrangers qui passent par l'Inde. L'Inde est une escale, c'est une étape, mais l'islam qu'ils amènent sur place n'est pas spécialement un islam indien. Un exemple assez marquant, c'est donc le personnage sur lequel j'ai fait ma thèse, qui s'appelle Raniri. Son nom, Raniri, en fait, renvoie à la ville de Rander, qu'on appelle Ranir en arabe, qui est la banlieue de Surat, donc, dont on a beaucoup parlé hier. Donc c'est simplement une banlieue de Surat qui est de l'autre côté de la rivière Tapti. Et donc ce personnage est né à Ranir, effectivement, mais c'est un personnage qui vient du Hadramaut, qui vient de l'est du Yémen. Et dans ses textes, il ne transmet vraiment que des influences qui viennent du monde arabe et pas du tout de l'Inde. Alors maintenant, je vais passer à ma deuxième partie qui est finalement, on a vu donc des influences de courants islamiques variés, que ce soit des courants religieux, artistiques, littéraires, qui venaient d'un peu toutes les régions avec lesquelles le monde malais était en contact. Mais est-ce que vraiment ces influences ont eu une influence profonde sur la pratique de l'islam dans le monde malais? J'aimerais donc apporter quelques nuances, il y a plusieurs points, disons, des rapports entre commerce et islam qui auraient pu avoir une influence assez directe. Alors, je pense à trois choses en particulier qui concernent, disons, certaines interprétations du droit musulman ou de la pratique du commerce dans l'islam. Alors, la première chose, c'est qu'on aurait pu avoir, par exemple, une interprétation très stricte de l'interdiction de l'usure, qui aurait pu aller jusqu'à l'interdiction du prêt-intérêt. Ça n'a pas été du tout le cas. Donc on trouve des traces très importantes de prêt-intérêt. Bon, on en a parlé pour Banten hier. Donc ça n'a pas posé spécialement de problème. Autre chose qui aurait pu se heurter à une interprétation, disons, très stricte de l'islam, c'est la question de l'esclavage pour dette. Alors l'esclavage pour dette, c'était une institution très très importante dans le monde malais avant l'arrivée de l'islam. Et dans l'islam, on a ces textes qui disent qu'on ne peut pas réduire en esclavage quelqu'un qui est déjà musulman. Donc là, une fois que la population du monde malais était devenu islamisé, normalement, on n'aurait pas pu donc réduire des gens en esclavage pour dette. Dans les faits, donc, tout ça a été ignoré ou contourné. Donc ça n'a pas posé de problème particulier. Ça n'a pas été considéré comme quelque chose relevant donc, d'un interdit. Alors peut-être un peu plus intéressant, puisqu'on peut le lier là avec les textes qui sont produits sur place, il y a dans les miroirs des princes, dans la tradition persane, il y a aussi toute une tradition qui consiste à dire que le commerce est quelque chose qui est mauvais pour les souverains, que le souverain est trop puissant, et donc s'il intervient dans l'économie, il risque de la déstabiliser, risque d'empêcher sa population donc de gagner de l'argent normalement. Et donc on a toute une série de textes, toute une série d'histoires qui concernent plutôt les rois de l'Iran pré-islamique, qui sont des exemples donc, de rois justes et sages qui n'ont pas fait de commerce, puisque le commerce n'est pas bon pour les rois. Alors ces textes, ces histoires ont circulé dans le monde malais, c'était traduit abondamment, et les rois qui ont payé pour ces textes, étaient des gens qui pratiquaient le monopole du poivre, qui avaient une place démesurée dans l'économie locale. Donc ça n'a pas l'air de les avoir gênés beaucoup. Donc je prends cet exemple pour vous dire que finalement, on peut essayer d'utiliser les sources textuelles pour comprendre cette transmission de l'islam dans le monde malais, mais ça a quand même ses limites, puisque souvent, les livres sont là un petit peu pour la décoration. Alors j'ai parlé des livres de droit chafiite, on en a quelques-uns, mais quand on a des codes de loi vraiment rédigés en malais, la plupart du temps, ce droit musulman est seulement une partie très très réduite du droit. L'essentiel, c'est du droit coutumier. Et même les parties du droit chafiite qui sont incluses dans ces codes n'ont pas l'air d'être vraiment appliquées à la lettre. Donc finalement, ces textes, ils nous montrent un peu les vagues du commerce, mais ils ne nous montrent pas forcément donc, le cœur de l'islam local. Donc c'est ça dont je voudrais parler assez rapidement maintenant. Donc là, je vais vous montrer un peu des traits de l'islam local qui se sont très probablement formés au tout début de l'appropriation de l'islam sur place ici, donc dans la région d'Aceh, et qui se sont transmis en fait à l'ensemble de la région, alors que c'est pour l'essentiel inconnu dans le reste du monde musulman. Alors, oui, ça, je vais passer rapidement, je crois que je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je parlerai peut-être pendant les questions. Donc, c'est des traits qui sont en fait liés à la tradition austronésienne. Là, vous voyez en fait la famille linguistique austronésienne dont fait partie le malais. Et en fait, dans ce monde austronésien, donc qui va de Madagascar jusqu'à l'essentiel des îles du Pacifique, on a en fait des pratiques religieuses anciennes qui sont étonnamment proches et qui ont très très bien survécu en fait à l'adoption de toutes sortes de traditions religieuses postérieures. Dans le monde austronésien, on a aujourd'hui donc beaucoup de musulmans en Indonésie, mais on a des chrétiens, donc des catholiques, des protestants dans diverses régions. On a aussi des gens qui ont encore gardé donc des traditions religieuses originelles qui sont transformées au fil du temps. Et chez tous ces gens, on a jusqu'à maintenant des points communs assez forts. Alors, un point qui m'intéresse, c'est que dans cette tradition austronésienne ancienne, on n'a pas d'architecture en pierre. Les seules choses qui vont être en pierre et un peu maçonnées, c'est l'architecture religieuse, donc qui sont des endroits qui sont dédiés au culte des ancêtres, en particulier le culte des ancêtres fondateurs. Et ces endroits de pierre donc, sont en général formés de plusieurs plateformes de pierre superposées les unes sur les autres. Et c'est ça donc l'expression du sacré dans un nombre important de sociétés austronésiennes. Alors quel rapport avec l'islam? Nous allons voir ça. C'est que le modèle des mosquées anciennes en Asie du Sud-Est, c'est celui-là. C'est un modèle de bâtiment donc, en bois, en matière périssable, avec des toits superposés qui rappellent très clairement la structure de ces bâtiments austronésiens anciens. Et donc, j'aurais peut-être dû montrer les images dans l'autre sens. Mais là, vous voyez qu'à Bali, les temples balinais, qui sont des temples hindous, reprennent exactement le même principe. Et donc, quelle que soit la religion qui a été employée, en fait, on voit que c'est des religions qui ont été lues à travers un filtre austronésien qui restait très très puissant. Donc je vais peut-être finir sur cet autre exemple. Alors là, c'était pour vous montrer que... donc ça, c'est une mosquée qui vient d'Aceh, à l'extrême ouest du monde malais. C'est une mosquée donc, qui vient du point de départ, mais on trouve ce modèle de mosquée jusqu'au bout ici, à Ternate, donc dans les îles Moluques. On a exactement le même type de mosquée. C'est-à-dire que c'est un modèle de mosquée qui n'est pas connu dans le reste du monde musulman, mais qui s'est diffusé partout. Partout où l'islam est arrivé, c'est cet islam-là qui s'est diffusé. Alors, autre aspect extrêmement important, qui est en fait la base de la vie religieuse, enfin qui est restée la base de la vie religieuse de l'essentiel des musulmans du monde malais, on va dire jusqu'à la fin du 19e siècle, aujourd'hui c'est devenu plus compliqué, ce sont des grands repas communautaires qu'on appelle d'un mot dont on a parlé hier. En malais, on appelle ça des kandouri. Donc kandouri, vous vous souvenez, ce mot persan qui désigne la grande nappe sur laquelle on va faire des repas. En fait, ces kandouri, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grands repas communautaires qu'on va en particulier faire à l'occasion des funérailles. Et les plus grandes sont pour les funérailles des ancêtres ou des souverains, encore mieux pour les ancêtres des souverains. D'ailleurs, dans les premiers textes qui nous parlent de la première dynastie musulmane de l'archipel, on nous décrit précisément donc, ces grands festins funéraires qui sont faits par les rois pour les fondateurs de leur dynastie. Et donc finalement, l'islam malais, c'est, et l'islam dans le monde insulaire indien en général, c'était un islam dans lequel tous les rites funéraires de l'islam et une très grande partie aussi de ce qui est lié au soufisme, au culte des saints, a été lu avec ce prisme austronésien qui est les grands repas funéraires pour les ancêtres. Et donc les mystiques, les saints mystiques dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple les neuf saints de Java, ce sont des gens donc, qu'on vénère en faisant donc, ces grands festins pour leur tombe. Et ils ont été recyclés, si vous voulez, en ancêtres austronésiens. Ce sont devenus simplement les ancêtres de la nouvelle religion, les ancêtres fondateurs de la nouvelle religion. Et donc, pour continuer sur mon exemple balinais, ça me sert un peu de conclusion. À Bali, quand on fait des cérémonies funéraires, on ne pratique pas les enterrements, mais la crémation. Par contre, ces grands festins funéraires, on fait exactement les mêmes. Et j'aurais pu prendre aussi des exemples donc, de communautés chrétiennes dans le monde malais ou dans le reste du monde austronésien, on aurait trouvé la même chose. Donc ça a changé un petit peu depuis un siècle avec donc, les attaques du réformisme musulman contre ces pratiques donc, qui sont vues comme des choses ne relevant pas de l'islam, mais c'était vraiment la base donc, de l'islam insulindien. Et donc j'aimerais conclure un peu là-dessus, c'est que finalement, quand on observe ces influences du commerce, on a tendance à croire que finalement, ce sont les étrangers qui amènent leur forme d'islam, alors qu'il y a une résistance très très forte des traditions religieuses locales qui réinterprètent complètement cette tradition. Et donc on avait parlé au début de la conférence donc, de ce concept d'ethnogénèse, cette idée donc, de formation de nouveaux peuples. Alors l'islam est quelque chose qui a servi à intégrer ces communautés marchandes étrangères qui pour beaucoup prenaient des femmes sur place, faisaient des enfants sur place et donc leurs enfants au bout de quelques générations donc, devenaient, se fondaient avec la population locale. Mais quand ils se fondaient dans l'islam avec la population locale, c'était avec ce type d'islam-là et pas avec l'islam qu'ils avaient apporté. Donc, sur ces réflexions, donc je laisse la parole à la salle pour les questions. Thank you.